content de me retrouver ici. Je suis ravi de faire la connaissance d'Ivan. Est-ce que vous avez entendu sa prière? Elle a grandi grâce au Seigneur à sa façon. Voilà. Et puis, je crois que c'est le mieux fort. Est-ce que vous savez que c'est votre fête aujourd'hui? La Toussaint. Alors, je ne me dis pas à la façon catholique, mais à la façon biblique. Nous sommes tous des saints, n'est-ce pas? Alors donc, c'est notre fête, joyeuse fête de la Toussaint. Et puis, vous savez, pour moi, c'est un anniversaire parce que ça fait 59 ans, le 1er novembre 1961, plusieurs d'entre vous n'étiez pas encore de ce monde lorsque j'ai quitté ma patrie et une aventure a commencé qui n'a pas encore cessé. Alors, voilà, je m'ouvre toujours en grâce tout ce que le Seigneur tient en réserve. Je voulais tout de suite sans perdre du temps puisque je dois garder cette montre à l'œil. Je voulais vous inviter à faire avec moi une lecture dans les Actes des Apôtres. À vrai dire, on a déjà chanté une partie de ce dont nous allons parler. Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire les versets 6 à 10, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, 5e livre, Billy Graham, il a dit que le titre n'est pas tout à fait correct. Il a dit, on aurait dû l'appeler l'acte ou les actes du Saint-Esprit opérés à travers les apôtres. Et dans ce sens, c'est vrai. Vous avez trouvé chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Alors je sais que pour tout, la majorité d'entre vous, c'est du grec, là, tous ces pays. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer une carte afin que vous puissiez mieux vous situer. Alors verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière, passe en Macédoine, seconde. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et nous disons tous Amen. Et si vous voulez, vous pouvez garder votre Bible ouverte. Frères et sœurs, en 1991, janvier, c'était juste, vous savez, lorsque la guerre du Golfe a éclaté, j'ai eu l'occasion d'assister à deux réunions dans une grande église juste en dehors de Los Angeles. Le nom de cette église, c'est The Church on the Way. Elle a été fondée par un certain Jack Lafer, un éminent serviteur de Dieu, qui nous a donné d'ailleurs un magnifique chant que nous chantons, Majesté. Alors, pourquoi le nom The Church on the Way, que nous pourrions traduire librement l'Église en route? C'est parce que cette Église ne voulait pas rester figée, elle ne voulait pas devenir un monument évangélique. C'est une Église qui voulait aller avec la direction du Saint-Esprit. Et d'un petit groupe, c'est ainsi que l'Église a commencé. Eh bien, lorsque j'étais là, il devait avoir à peu près 8000 membres. C'était vraiment une Église en route, sensible au Saint-Esprit, voulant donc agir et avancer au rythme de l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire que ça, c'est aussi la vision, c'est le désir de notre pasteur, qui aujourd'hui brille par son absence, ainsi du leadership des anciens. Nous aimerions être une église qui est au diapason avec le Saint-Esprit. Nous aimerions savoir ce que le Seigneur voudrait faire, de quelle façon faire l'église. Et vous savez, la pandémie, donc Covid-19, nous pousse à revoir la copie et à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire à travers cette pandémie? Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, quel était le secret de l'Église primitive. Parce que quand je lis les premières pages et je suis en train de relire ce livre, eh bien vous assistez à une explosion numérique. Alors il y a un serviteur de Dieu du nom de T.L. Osborne, c'est un des grands évangélistes américains. J'ai eu l'occasion de travailler pour lui et de le connaître personnellement. Il s'est penché sur la question « Quel est ou était le secret de l'Église primitive ?» Et lui, il a tiré donc une conclusion, il a écrit un livre, « Trois clés pour le livre des actes ». Et donc les trois clés, donc les voici, c'est tout d'abord le nom de Jésus. Les apôtres ont prêché le nom de Jésus, ont agi au nom de Jésus, ont guéri au nom de Jésus, ont chassé les démons au nom de Jésus. Deuxième clé, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas lire les 28 chapitres des Actes sans vous apercevoir que le Saint-Esprit est omniprésent. Et les apôtres, les premiers chrétiens, étaient remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné une cinquantaine de fois dans ces 28 chapitres. Et puis finalement, ils ont annoncé la parole. La Bible nous dit que la foi vient par la parole. Ils n'ont pas prêché une philosophie, ils ont prêché l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors donc, quand vous lisez le chapitre 16, et je ne vous empêche pas de le faire chez vous à la maison, eh bien donc, vous allez constater, nous nous trouvons au début du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et donc, vous allez voir, donc, nous avons lu ces quelques versets où cette équipe apostolique est en train de chercher les directives du Saint-Esprit. Ils veulent avancer au rythme de l'Esprit. Et vous savez, dans un certain sens, ces quelques versets, 6 à 10, représentent notre paragraphe, sont dans un certain sens surprenants. Alors donc, ce qui frappe immédiatement le lecteur attentif du moins, donc, c'est le rôle que joue le Saint-Esprit alors qu'ils avancent et qu'ils veulent connaître la pensée de Dieu pour eux. Alors il y a une première vérité que je voudrais souligner. Donc le rôle déterminant de l'Esprit dans la vie de cette équipe apostolique, ils n'ont pas voulu faire tout simplement à leur tête. Ils voulaient être au diapason avec la pensée du Seigneur. Donc, ils étaient sensibles au Saint-Esprit. Et puis, donc, je dirais que ça, c'est le désir aussi de nous, en tant que responsables. Mais ça devrait être le désir de chaque chrétien d'être dirigé par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Et ça, c'est donc... vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Israël, ils viennent de sortir de l'Égypte, de la maison de servitude, l'esclavage c'est fini, et il y a tout de suite un phénomène qui devrait vous toucher, c'est la Bible qui nous dit que le Seigneur les précédait. Pendant le jour, dans une colonne de nuée, et pendant la nuit, dans une colonne de feu. À vrai dire, Exode chapitre 13 nous dit ceci. Alors tout d'abord, vous avez ici la colonne de nuée. Alors ici, elle se trouve au-dessus du tabernacle qui a été construit par la suite. C'était la présence du Seigneur. Et Exode chapitre 13 nous dit, l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Et frères et sœurs, nous devons mettre l'accent sur les deux verbes que vous avez longtemps, que j'ai soulignés ou coloriés, guider et éclairer. Je pense que cette nuée, cette colonne de nuée et de feu, c'est un type du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, par lequel il veut nous conduire. Et je sais qu'il y a ici des personnes, vous êtes à la recherche du Seigneur. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui se trouve à un carrefour des chemins. Donc, vous vous demandez dans quelle direction dois-je aller. Mon frère, ma sœur, tu peux compter sur le ministère surnaturel du Saint-Esprit. Et puis, il y a un deuxième fait que je voudrais souligner aujourd'hui. Alors voilà, c'est peut-être toi. J'ai pris la photo par derrière. Donc, ça pourrait aussi être une femme, entre parenthèses. Hein. Et donc, il y a un deuxième fait que je voudrais souligner. Et vous avez peut-être été étonné de lire cela. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors, je voulais vous dire que le Saint-Esprit peut nous empêcher d'entreprendre certaines choses. Le Saint-Esprit peut même nous empêcher de pécher. Je pourrais vous fournir ici un témoignage, je le donne, ne le permets pas, un témoignage percutant comment le Saint-Esprit a empêché quelqu'un de pécher. Mais je voudrais tout de suite vous dire, frères et sœurs, tous les empêchements et tous les obstacles ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à discerner la source de nos difficultés, c'est-à-dire de savoir d'où vient l'empêchement. Est-ce que ça c'est du Saint-Esprit ou est-ce que c'est une autre source, une autre origine? Je voudrais vous donner un exemple. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il écrit cela aux Thessaloniciens, l'a dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. Quand il écrit aux Romains, il dit aussi qu'il a voulu venir à plusieurs reprises, mais là il ne dit pas que c'était Satan qui l'a empêché. Paul a toujours fait la part des choses et c'est ce que nous devons faire. Alors, je voudrais vous donner un exemple pratique comment le Saint-Esprit peut effectivement nous empêcher d'aller dans une certaine direction, parce qu'il sait pourquoi. Alors, ici, vous avez une lettre, deux lettres dans la mauvaise enveloppe. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai faite en 1967 ou 8 peut-être. Nous avions un programme radiophonique, n'est-ce pas? Et puis, c'était la vie en abondance, et nous avons reçu une correspondance d'une sœur en Guadeloupe qui nous a invités à venir en Guadeloupe. La tentation était là, et en même temps, j'ai fait la connaissance d'un pasteur baptiste de Guadeloupe qui passait quelques jours chez nos voisins qui étaient évangéliques. On a fait connaissance, et puis j'ai écrit à la sœur par rapport à cette visite. En Guadeloupe, j'ai écrit au pasteur, seulement j'ai fait une erreur, j'ai mis la lettre du pasteur dans l'enveloppe pour la sœur et vice-versa. Alors donc, vous comprenez que ni l'un ni l'autre n'a compris beaucoup de choses, sauf le pasteur. Il a dit « Ah !» et il m'a écrit. Et il m'a dit « Écoute, je sais qu'il y aura bientôt un missionnaire des assemblées de Dieu qui doit arriver en Guadeloupe. Je te conseille, attends son arrivée. » Et je l'ai fait. Donc, par la suite, ce missionnaire nous a invités à répétition et je crois que le Seigneur nous a empêchés de nous engager dans un ministère précoce en Guadeloupe. Le Saint-Esprit peut effectivement nous empêcher de faire certaines choses. Alléluia. Alors, je voudrais insister sur le fait, quand vous parcourez les quelques versets, que notre texte, il nous apprend quelque chose sur la façon de procéder de l'apôtre Paul. Alors je voudrais tout de suite vous dire, frères et sœurs, si vous avez l'idée d'un Paul super spirituel, hyper spirituel, à qui le Seigneur avait donné tout l'itinéraire d'avance, à ce moment tu vas à droite et puis tu vas à gauche, le Seigneur lui a donné un GPS, donc préarrangé. Non, non, non. Quand vous lisez ces quelques versets, vous constatez que Paul et ses compagnons d'œuvre sont en train de tâtonner. Mais le Seigneur, il les a guidés. Alors je voudrais vous montrer ici, est-ce que tout le monde peut voir, le deuxième voyage de missionnaire, donc ça commence à Antioche, et vous devez suivre la ligne rouge. Vous avez là les différents pays où Paul et son équipe ont voulu prêcher. Alors finalement, ils ont voulu aller en Bithynie et l'Esprit de Jésus, qui est le même que le Saint-Esprit, les a empêchés. Frères et sœurs, ce que nous devons donc voir, une double intervention. Tout d'abord, nous ne savons pas de quelle façon le Saint-Esprit a empêché l'équipe missionnaire de procéder. Nous ne le savons pas. On peut spéculer, mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient visiblement au diapason avec le Saint-Esprit. Ils avaient les oreilles spirituelles ouvertes pour entendre et pour comprendre les intentions du Seigneur. Et c'est exactement ce que nous devons également développer, cette question de la voix de Dieu. Vous savez, écouter la voix du Seigneur et être dirigé par le Seigneur, ça revient à une et la même chose. Et ce matin, je voudrais vous rappeler que nous devons faire une distinction entre trois voix. C'est-à-dire, il y a la voix de ma chair, la voix de mes aspirations, la voix de mes désirs, et certains chrétiens prennent leur voix pour celle de Dieu. Ensuite, vous avez la voix de Satan qui lui aussi parle et il trompe et triche. Je l'appelle le singe de Dieu, c'est celui qui fait la contrefaçon. Et finalement, vous avez la voix de notre Seigneur. Alors, on pourrait donner des exemples, mais pour une question de temps, je m'en abstiens. Je voudrais juste vous rappeler que le monde évangélique est divisé par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Il y a ceux qui disent que Dieu ne parle plus directement à nos cœurs, il parle uniquement à travers une interprétation correcte des Saintes Écritures. Alors nous, pentecôtistes, charismatiques, nous croyons que Dieu parle bien sûr tout d'abord à travers sa parole, mais il peut aussi nous parler directement. Hier soir encore, une sœur m'a rendu un témoignage, ça m'a vraiment touché comment elle a été dirigée. Un petit détail, mais qui peut faire toute la différence. Je voudrais vous partager une expérience que j'ai faite il y a quelques années. Nous étions encore en métropole et nous avons passé 15 jours à Nîmes. Nous étions logés chez un couple de chrétiens qui faisait partie de l'église d'un ami. Et je lui avais promis de prêcher le dimanche. Alors même les pasteurs prêchent même pendant leurs vacances. Alors tandis que j'étais à genoux en train de prier pour ce culte, un événement m'est revenu à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Un événement qui remonte en 63-64. Mon beau-père avait une petite assemblée aux Pays-Bas et il avait exprimé le désir de laisser cela à quelqu'un d'autre. Il voulait bien quitter, donc abandonner cette responsabilité. Et il avait un orateur de passage en semaine. J'étais là dans cette réunion. Et ce pasteur, il a prêché sur Ruth. Et vous connaissez l'histoire de Ruth. Et à un moment donné, quand aussi bien Boaz dit « Reste avec mes servantes », et Naomi, la belle-mère de Ruth, dit « Ne va pas dans un autre champ, ma fille. » Vous connaissez ? Et ce pasteur a insisté « Ne va pas dans un autre champ. » Au fond, c'était la réponse dont mon beau-père avait besoin. Donc il a décidé de rester, puisqu'il a vraiment conçu que c'était le Seigneur qui lui parle. C'est cet événement qui m'est venu à l'esprit alors que je me prépare pour le culte à Nîmes, et j'avais l'impression que je devais partager cela. C'était intérieur, n'est-ce pas? Alors, en commençant, j'ai partagé cette expérience, et puis je dis peut-être y a-t-il quelqu'un, et cette parole est pour toi, ok. À la fin de la réunion, on venait rentrer et nous étions invités à manger chez nous, nos hôtes. Et à la fin, lorsqu'on a pris le café, eh bien, le couple, alors il y avait un couple qui servait la Sainte Cène. Et ce couple est venu prendre le café avec nous et ils ont dit ceci. Ce matin, nous sommes venus à l'église parce que nous devions servir la Sainte Cène avec la ferme résolution de ne plus revenir en fait. Mais ce matin, Dieu nous a interpellés par cette parole « Ne va pas dans un autre champ » et sont restés dans l'église. Vous voyez donc que c'est un petit incident, si vous voulez. Mais quand on écoute la voix du Seigneur. Alors, nous lisons maintenant, vous savez, quand le Seigneur dit à deux reprises non, il y a là le feu rouge, à un moment donné, il veut quand même nous montrer ce que nous devons faire. Quand Dieu ferme une porte, il veut en ouvrir une autre. Est-ce que vous croyez ça? Et donc, nous lisons ici, pendant la nuit, Paul eut une vision. Je voudrais insister tout d'abord sur le fait que vision, songe, les actes des apôtres, mais vous lisez ça déjà dans Joël chapitre 2, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, et bien c'est ce qui se passe ici, une vision pendant la nuit. Et j'aimerais insister sur le mot nuit. Tout d'abord, vous savez peut-être que c'est surtout la nuit quand tout est tranquille, qu'on peut mieux écouter. Et deuxièmement, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui se trouve dans une nuit spirituelle, ou morale, ou émotionnelle. Tu passes par des moments difficiles, ce sont les ténèbres, c'est l'obscurité, tu as besoin d'être éclairé. De toute façon, Dieu parle à son serviteur pendant la nuit. Et c'est dans cette vision, vous l'avez lu, il y a juste cinq mots. Un Macédonien donc qui dit « passe en Macédoine, secours-nous ». Cinq mots. Aussi en grec, ce sont cinq mots. Mais vous savez, c'est vraiment quelque chose de fort, de puissant. Et je voudrais maintenant faire une proposition. Ce n'est pas écrit dans votre texte, mais je m'imagine que le lendemain matin, Paul, il a dit, Boris, j'ai une vision. Et il la partage avec les autres. D'ailleurs, qui sont les autres? C'était Silas, c'était Timothée. Mais est-ce que vous avez noté quelque chose? Au départ, il est question de il, troisième personne du pluriel. Et maintenant, tout à coup, il est question de nous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'auteur du livre a rejoint l'équipe. Et je vous invite la prochaine fois que vous lisez les Actes des Apôtres, faites attention à ce qu'on appelle les « nous » passages. Lorsque les « ils » sont remplacés par les « nous », Luc est là. Alors, je m'imagine qu'ils ont pesé, évalué cette vision. Autrement dit, ils se sont posé la question « est-ce réellement toi, Seigneur ?» Est-ce qu'il y a un écho favorable dans mon cœur par rapport à cette vision? Et je voudrais vous lire ce matin, c'est une mise en garde que je voudrais vous donner. N'acceptons pas toutes les paroles qui viennent soi-disant du Seigneur comme étant inspirées. La Bible nous invite, nous exhorte à examiner, à tester, à éprouver, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit d'une prophétie directrice ou directive. Alors je ne sais pas quel est le meilleur mot, mais de toute façon, ce que vous lisez ici, j'y crois. Une prophétie sert plutôt à confirmer quelque chose qui est déjà là, plutôt qu'à annoncer un fait nouveau. Maintenant, bien sûr, Dieu peut annoncer quelque chose de nouveau, mais nous devons toujours tester. Et nous lisons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est d'ailleurs la devise des voleurs. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ouais. Alors, moi je prétends, non, je ne prétends pas seulement, parce que je l'ai vu, il y a d'énormes fautes qui ont été commises, avec parfois de lourdes conséquences, parce qu'on n'a pas testé, on n'a pas pesé, on n'a pas évalué une parole, une vision, un songe. Alors, et ce suscite maintenant la question, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné suite à cette vision, n'est-ce pas? Mais je voudrais surtout insister, et donc, sur le fait, l'envergure de cette vision. Parce que, frères et sœurs, maintenant, cette équipe apostolique est propulsée vers un nouveau continent, propulsée vers l'Europe. Autrement dit, ils quittent un ancien continent pour s'aventurer vers un nouveau continent où il fallait évangéliser. Et autrement dit, Paul, il se trouve de nouveau dans le dessein de Dieu pour sa vie, n'est-ce pas? Et ceci, c'est une question que je voudrais donc vous soumettre ce matin. Est-ce que tu es là où le Seigneur veut que tu sois? Est-ce que tu es entré dans la vocation du Seigneur pour toi? Est-ce que tu es là où tu devrais être? Alors, je termine avec une déclaration du professeur Dr. Bob Smallhout. C'était un professeur hollandais, j'ai découvert qu'il est décédé maintenant, mais donc il a dit ceci: je suis convaincu que l'homme n'est pas pour rien sur Terre. Nous avons un certain mandat qui est lié au talent que nous avons reçu. D'ailleurs, il prêchait aussi, ce professeur, et ce qu'il dit ici, j'y crois, j'y adhère de tout mon cœur. Ce matin, je voudrais surtout insister sur deux choses. As-tu besoin d'une direction divine ce matin? Et d'autre part, est-ce que tu te trouves à ta place? Es-tu entré dans la destinée du Seigneur pour ta vie? Prie. Seigneur, tu nous as donné ce magnifique livre, Les Actes des Apôtres, pour servir de modèle, pour encourager ton Église, bien sûr aussi pour lui montrer ses débuts vraiment puissants et encourageants. Et Seigneur, nous aimerions vivre ce qu'a vécu la première Église. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous voulons voir le Saint-Esprit toucher des vies, nous voulons voir des églises naître et nous voulons voir des églises vivantes, dynamiques, puissantes. Et Seigneur, je te remercie pour l'action de ton Esprit dans nos vies. Ton Esprit qui vivifie, ton Esprit qui conduit et qui dirige. Et Seigneur, tu nous as donné dans la personne du Saint-Esprit cette colonne de nuée de jour, cette colonne de feu de nuit pour nous guider et pour nous éclairer. Et je prie pour toute personne qui se trouve ici dans cette salle, Seigneur, qui se trouve peut-être à un carrefour de chemin, qui te demande que dois-je faire, dans quelle direction dois-je procéder, que tu puisses donner ton éclairage et ta lumière. Et d'autre part, Seigneur, comme tu as conduit Paul tout à nouveau dans ton divin plan pour sa vie, tu as voulu l'utiliser pour évangéliser l'Europe, alors conduis chacun d'entre nous dans ton plan pour notre vie. Que notre vie compte tandis que nous sommes ici-bas. Que nous ne soyons pas juste des consommateurs de tes grâces, de tes bénédictions, mais que nous soyons également des contribuables, des acteurs. Et pour cela, nous avons besoin de connaître ton plan pour notre vie. Merci pour l'éclairage que peut donner ton esprit à chacun d'entre nous. Et je voudrais prier ce matin pour ma sœur, Laure. Elle m'a partagé quelque chose récemment, un choix qu'elle devra faire. Seigneur, je te remercie de ce que tu connais, ce qui lui a été proposé. Et le choix est lourd de conséquences. Il veut mettre un sceau sur sa vie, et un sceau positif comme un sceau négatif. Alors, ce matin, nous faisons appel à toi. Saint-Esprit, toi qui as empêché à deux reprises tes serviteurs d'avancer dans une certaine direction, parce que ton plan était autre. Je prie maintenant que tu manifestes cette même vertu en faveur de ma sœur Laure. Parle à son cœur, éclaire-la par rapport au choix qu'elle devra faire. Seigneur, tu es le Dieu qui peut encore empêcher quand nous voulons peut-être aller dans une mauvaise direction. Merci de parler au cœur de Laure, de dévoiler ton plan avec sa vie, et de lui montrer si elle doit accepter ou refuser cette proposition. Et ensemble, en tant que famille de Dieu, nous voulons te bénir et remercier le Seigneur pour sa façon de te conduire dans ce choix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
l'année où ça tombe.